On rejoint M. Rago au téléphone, qui est analyste senior aux politiques publiques de la Société québécoise de déficience intellectuelle et étudiant en doctorat à l'Université McGill. Bonjour, M. Rago.
Bonjour.
Vous venez nous parler, M. Rago, de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a publié récemment un rapport qui critique un modèle d'aide d'insertion à l'emploi du gouvernement du Québec. Et donc, vous êtes penché sur la question du modèle d'emploi pour la Société québécoise de la déficience intellectuelle.
Oui, absolument. Alors, je peux peut-être vous expliquer un petit peu dans
Oui, expliquez-nous.
Oui, alors ce que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a dit, en gros, là, très rapidement, c'est que le modèle québécois semble ne pas fonctionner comme il devrait. En tout cas, il n'a pas accompli les promesses qui avaient été faites ou qui étaient attendues, en tout cas. Et il est donc temps de revoir certains éléments du modèle, voire la majorité des éléments du modèle. Donc, c'est un rapport quand même important qui a beaucoup marqué, je pense, les esprits dans la communauté. Et nous, à la FDI, évidemment, on est en faveur de l'embauche, de l'emploi régulier, de ce qu'on appelle l'embauche inclusive, donc d'avoir les personnes en situation de handicap, qui ont une déficience intellectuelle ou une autre forme de limitation fonctionnelle, au sein des milieux de travail inclusifs, réguliers, donc que ces personnes-là reçoivent un salaire comme les autres et qu'elles aient les mêmes avantages sociaux et compagnie. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait écho avec nos positions, mais aussi avec celles d'autres organisations dans le milieu. Donc, on a depuis discuté avec le ministère de l'Emploi, on leur a proposé nos propositions pour la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées. Et on attend de voir un peu ce qui va en découler.
Commençons par le commencement. Quels enjeux on voit? C'est quoi le problème au niveau de l'employabilité des personnes en situation de handicap et du modèle qu'on met de l'avant en ce moment?
Mais très clairement, on le sait, les personnes en situation de handicap ont des taux d'emploi qui sont moins élevés que les personnes qui n'ont pas de limitation. Donc ça, c'est un premier enjeu, mais qui en découle, dont en découle d'autres enjeux, dont par exemple la pauvreté. Donc on sait évidemment que quand on n'a pas un emploi, souvent on est obligé d'avoir recours au programme d'aide financière de dernier recours, donc l'aide sociale, la solidarité sociale ou dans certains cas le programme de revenus de base. Et ça évidemment augmente le niveau de pauvreté des personnes. Ce qu'on entend, ce qu'on lit quand on lit le rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, c'est que ce modèle qui existe au Québec depuis à peu près 40 ans, 50 ans, il ne permet pas, ou il n'a pas permis en tout cas d'augmenter de façon significative ou de façon satisfaisante les taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, ce qu'on lit, c'est qu'il y a encore beaucoup de discrimination à l'emploi. Ça reste d'ailleurs le critère numéro un de plainte à la commission. Et ce qu'on voit, c'est que, bien évidemment, les moyens manquent. Mais aussi, peut-être, puis là, la commission n'est pas allée jusqu'à dire que ça, par ailleurs, je tiens à préciser. Ça, c'est une interprétation vraiment plus personnelle. Mais clairement, il y a un manque de volonté politique et d'intérêt politique à améliorer la situation fondamentalement.
Et c'est quoi le modèle, en fait, là, dont on parle? Sur quoi il est basé? Qu'est-ce qu'ils mettent d'avant qui ne fonctionne pas?
Mais il y a beaucoup de choses dans le modèle d'employabilité, évidemment, parce que les personnes en situation de handicap, mais c'est pas un groupe qui est homogène. Donc, chaque type de handicap peut avoir des besoins très spécifiques. Mais on voit que, par exemple, des programmes de type, par exemple, plateau de travail ou atelier de travail, même les stages en emploi ne mènent pas nécessairement à de l'embauche à long terme ou ne mènent juste pas à de l'embauche en général. On voit aussi que le recours, permanent dans certains cas au contrat d'intégration au travail n'est pas nécessairement la bonne solution puisqu'elle crée une dépendance financière de la part des employeurs pour des employés qui sont potentiellement tout aussi productifs au final. Il y a beaucoup d'enjeux là qui sont soulevés dans le modèle actuel. Nous, à la FDI, on pense qu'il y a d'autres choses qui pourraient être faites en ajout de ce qui est fait actuellement. Et c'est un peu ce qu'on a proposé là, au ministère de l'Emploi dans les deux dernières années pour pour faire cheminer la réflexion de tout le monde. Donc, c'était bien avant même le rapport de la commission.
Vous nous avez parlé un peu de ce que vous vouliez mettre de l'avant là, à la SQDI, mais plus précisément, là, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Bien, on croit beaucoup, nous, à l'embauche inclusive pour les personnes qui sont capables d'avoir un travail. Puis là, je tiens à le dire, bon, c'est pas toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et c'est pas une question de dire que les gens sont pas capables ou sont capables, mais c'est vraiment de dire que les employeurs ont des attentes particulières et certaines personnes ne sont pas nécessairement en mesure de répondre à ces besoins-là. Une fois que ça c'est dit, la majorité des personnes ayant une déficience intellectuelle ont une déficience intellectuelle légère.
Oui.
Donc, elles sont tout à fait aptes à aller en emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, par exemple. Ce qu'on dit, c'est une bonne chose, par exemple, ce serait d'avoir de l'accompagnement en emploi. Donc, des modèles d'instructeurs, accompagnateurs en emploi ou instructrices qui permettent de soutenir non seulement la personne, mais aussi le milieu de travail. Parce que c'est important de ne pas se centrer juste la responsabilité de l'inclusion du milieu de travail juste sur la personne elle-même. C'est le milieu de travail, c'est les pratiques de travail, c'est les descriptions de tâches, c'est toutes les mesures d'accommodement qu'il faut réfléchir en fonction de comment est-ce qu'on peut être plus inclusif. Ça bénéficie par ailleurs à tout le monde.
C'est aussi les comportements donc des gens autour, des autres employés et des employeurs. Hein. On met ça beaucoup sur les épaules. Vous l'avez dit, des personnes qui ont une déficience intellectuelle, mais c'est aussi les gens autour là, qui doivent comprendre la situation et s'adapter.
Absolument. Puis on le sait, le capacitisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement prévalent dans la société. Il y en a encore énormément. Il y a beaucoup de croyances erronées sur les capacités des personnes en situation de handicap, qu'elles aient une déficience intellectuelle ou pas. Nous, ce qu'on dit, c'est que, encore une fois, la majorité des personnes qui ont une déficience intellectuelle sont aptes à travailler si on leur donne un soutien au début, puis parfois en accompagnement en emploi. On tend à le voir de plus en plus. Mais effectivement, il faut sensibiliser pas juste les ressources humaines, mais aussi les collègues. Parfois, il faut donner de la formation aux collègues, il faut expliquer, il faut déconstruire certains préjugés, déconstruire certaines idées reçues. Donc, il y a un véritable travail là, d'éducation à faire auprès des communautés dans lesquelles les emplois se trouvent. Parce qu'évidemment, le but, c'est pas d'avoir un emploi, c'est d'être malheureux en emploi. C'est pas du tout ce qu'on cherche.
Évidemment, être malheureux en emploi, ben, ça amène d'autres problématiques hein, au niveau de la santé mentale. Entre autres, qu'est-ce qu'on gagne comme Québec, comme société québécoise à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap au travail? Pourquoi les personnes de la société, tout le monde devrait se sentir concerné par cet enjeu-là?
Bien, c'est un problème collectif dans la mesure où ça reflète quand même beaucoup les priorité qu'on se donne en tant que société, évidemment, de dire que on laisse personne derrière. Évidemment, si on y va sur un angle plus économique, une personne qui travaille, c'est une personne qui paye de l'impôt.
Oui.
Donc,
bon
une personne qui est sur le programme de revenu de base, ben, la personne a le droit de travailler environ 15 600 $ là, en 2025. 15 600 $ ça nous mène, si on mettons la personne travaille jusqu'à cette limite-là, plus son chèque d'aide sociale, ça nous mène dans un palier d'imposition où la personne paye de l'impôt réellement.
Oui.
Donc, il y a une logique économique qui n'est pas ma logique préférée parce que je pense que l'inclusion, d'une part, c'est un droit, mais d'autre part, ça devrait être une valeur fondamentale au Québec.
C'est la préférée du gouvernement, par contre.
Certes, c'est certes. C'est sûr que le gouvernement, lui, regarde beaucoup ses colonnes de chiffres. Oui, effectivement, ben on s'entend. Là, encore une fois, quelqu'un qui paye de l'impôt, ben c'est quelqu'un qui est... C'est une bonne nouvelle de payer de l'impôt. C'est une bonne nouvelle en général, ça veut dire qu'on sort de la pauvreté puis qu'on a une activité qui nous permet de vivre de façon un petit peu plus digne. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut quand même pas dire qu'il faudrait pas donner plus d'argent aux gens sur les sociales. Je pense que c'est absolument crucial de les supporter plus. Parce qu'actuellement, tout le monde vit sous le seuil de pauvreté quand on est à l'aide sociale ou même au programme de revenu de base. Donc, c'est... Mais c'est une bonne nouvelle. Payer de l'impôt, c'est une bonne nouvelle. Je sais que c'est pas comme ça qu'on le voit généralement, mais quand même, sur le principe, ça l'est.
Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui seraient d'accord avec vous, qui crèveraient de payer de l'impôt. Et j'ai dit un peu tout à l'heure, évidemment, le fait de ne pas être en emploi, ça mène à la pauvreté, ça mène aussi à différents problèmes de santé mentale, de santé physique également, qui finissent par coûter cher à la société au-delà du fait que au-delà du revenu de base qu'on doit payer. Ça crée aussi des problèmes qui sont coûteux.
Absolument. Puis il y a tout plein d'études là, depuis des années qui montrent que la prévention, c'est la meilleure solution. Donc, chaque dollar qui est investi en prévention, en santé, en services sociaux, ben c'est plusieurs dollars qui nous sont sauvés, entre guillemets, collectivement en termes de coûts ultérieurs. Puis évidemment, ben on sait que le travail, pas dans tous les cas. On s'entend qu'on est dans un milieu de travail toxique, c'est pas nécessairement le cas, mais ça peut briser l'isolement, ça peut favoriser d'avoir des contacts sociaux plus réguliers, ça peut être quand même bénéfique. C'est important quand même de nommer le fait qu'il n'y a pas juste le travail qui peut faire ça dans la vie. Ce qu'on voit, c'est que oui, le travail est important, mais pour les gens qui sont pas, mettons, en mesure de travailler ou qui répondent pas aux besoins du marché de l'emploi tel qu'il existe actuellement, on maintient quand même que c'est vraiment crucial que ces personnes-là, on leur offre des activités qui soient stimulantes, qui leur donnent un rôle social actif, qui les fassent participer à la société, qui leur donnent un rôle qui est valorisé, puis qui est valorisant, puis qui est pas juste d'occuper leur temps, essentiellement. Puis ça, c'est quand même important de le préciser parce que le travail, ça devrait pas être la façon dont on définit la valeur d'une personne. Une personne a une valeur qui est intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une personne, donc elle a une valeur, point. Il n'y a pas de négociation à avoir là-dessus. Et donc, il faut quand même sortir un peu parfois là, du mode de « le travail équivaut à la valeur de la personne ». C'est pas ce qu'on pense, mais ça reste quand même quelque chose de potentiellement intéressant pour favoriser tout ce qu'on a dit de la participation sociale, le sortir de la pauvreté et compagnie.
Ça reste un préjugé de la société. Si tu travailles pas, entre guillemets, et je mets des guillemets, si tu travailles pas, tu sers à rien. C'est un peu un des nœuds, je devrais dire, du problème, en fait. C'est qu'on valorise énormément l'emploi et on valorise l'emploi selon des termes, une ancienne vision du travail dur, des chiffres, de la productivité. Et quand je dis ça, je parle évidemment de la productivité en termes de chiffres et en termes de rentabilité.
Effectivement, ça, c'est une conception très néolibérale de l'individu, que notre valeur est vraiment liée à ce qu'on est capable de rapporter comme plus-value à un employeur. C'est une façon très problématique de voir la valeur des individus et des humains en général. Puis c'est sûr qu'on a quand même une contamination là, qui se manifeste à ce niveau-là actuellement. Mais c'est pas juste les personnes en situation de handicap, là. On le voit pour les personnes en situation d'itinérance, on le voit pour les personnes aînées, on le voit pour plein de catégories qui sont aux marges du système actuellement, qui sont considérées comme étant moins importantes ou moins, en anglais on dirait deserving, donc elles méritent moins là, d'avoir du soutien, ce qui est absolument... sur le coup, je suis pas d'accord du tout.
Oui, on s'entend, c'est fou, mais c'est la vision un peu sociétale qu'on maintient, malheureusement.
Absolument. Puis c'est un peu ça qui est difficile parfois, effectivement. On s'est beaucoup posé la question, puis c'est pour ça un peu que quand on parle du travail, on parle aussi des autres activités qui peuvent être valorisantes, qui peuvent avoir un rôle social actif pour les personnes qui sont pas nécessairement en mesure de travailler ou dont le profil... fait l'objet de beaucoup de discrimination ou ne répond pas exactement aux besoins des employeurs. Donc, c'est important de parler de travail. C'est important de parler d'alternative au travail aussi puis de dignité humaine.
Merci beaucoup d'en parler et merci de votre travail au sein de la Société québécoise de déficience intellectuelle. Si on veut avoir plus d'informations, soit sur votre campagne ou sur les services que vous donnez à la Société québécoise de déficience intellectuelle, où est-ce qu'on peut aller?
Alors, on a notre site principal qui est la sqdi.ca, donc la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Mais on a aussi une campagne en emploi qui s'appelle « J'ai ma place ». Donc, le site, c'est tout simplement jaimaplace.ca, donc tout attaché. Puis, on a une partie sur l'emploi, on a aussi une partie sur l'habitation, qui était notre campagne de l'année dernière, mais qu'on continue à travailler. Donc, on a le site de la SDI et, encore une fois, le site jaimaplace. C'est deux sites où il y a beaucoup de contenu, il y a des vidéos de sensibilisation, il y a du matériel professionnel, il y a des liens vers des recherches, des liens vers des sites de meilleures pratiques et plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment des sites où il y a beaucoup de choses là, pour contribuer à la réflexion, puis peut-être donner des outils aux gens qui le désirent.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Ragot. Vous êtes donc étudiant au doctorat en travail social à l'Université McGill et analyste senior aux politiques publiques de la SQDI. Au plaisir de vous reparler.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Au revoir.